RCF.
Vous écoutez RCF, c'est l'heure de 18-19 en région. Un 18-19 en région qui nous mène donc jusqu'à 19h. On parlera notamment du pèlerinage diocésain qui va se dérouler lundi de Pentecôte. Ce sera au lac de Béron. On retrouvera bien entendu à 18h30 Alexis Claudretz pour l'information régionale. Juste après, ce sera le président du conseil départemental de la Marne, Jean-Marc Rose, qui sera l'invité. Et puis Robert Auverger avec son mot que l'on va retrouver dans quelques minutes. Mais on va inverser... Voilà Jean-Pierre Benoît donc qui arrive et donc on va pouvoir commencer. Donc Jean-Pierre, j'étais en train de faire le menu. Voilà. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Fabrice.
Voilà,
bonsoir,
j'ai tout donné sauf le mot du jour de
Robert. Eh bien voilà, le programme a été annoncé Fabrice, mais oui, c'est voilà. Formidable. On va retrouver, vous l'avez sans doute dit, Jean-Marc Rose tout à l'heure juste après le journal régional proposé par Alexis Claudretz avec bien évidemment le président du conseil départemental et puis vous avez évoqué sans doute le maire Guy Riflet, le maire d'Ille-sur-Suippes qui sera dans quelques instants notre invité. Mais bien sûr, le mercredi, c'est Robert Auverger qui est avec nous. Robert Auverger, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, en un mot, c'est le mot école. C'est ça votre mot d'aujourd'hui, Robert?
Tout à fait.
Alors, l'école, tout le monde en convient, représente un enjeu essentiel pour la société, en ce qu'elle dessine l'avenir. Et ce mot école, bien sûr, il évoque un certain nombre de transformations humaines nécessaires. Alors, une question se pose, Robert Auverger, évidemment, comment et par quel chemin l'école peut-elle atteindre ses objectifs?
Oula, c'est une vaste question. Alors, en résumé, disons qu'elle le peut d'abord par la qualité de l'enseignement des savoirs, bien sûr. Ensuite, par l'éducation, qui ne concerne pas les savoirs, mais la conduite. Et enfin, par l'instruction qui organise les esprits et peut-être encore enfin, si j'ose dire, le cas échéant, par la formation et l'apprentissage.
Alors ça, c'est un vaste programme, oui. Effectivement, Robert Auverger. Alors, toutes ces obligations sous-entendent évidemment que l'école, c'est une contrainte pour les écoliers et pour les maîtres peut-être aussi.
Ben oui, en effet, cette contrainte suppose un minimum nécessaire de discipline, sous peine de mal fonctionner. Mais apprendre ne suffit pas pour que l'école remplisse sa mission fondamentale, qui est de transformer les jeunes en citoyens. Et dans ce but, elle concerne, disons entre guillemets, les presque bébés qui fréquentent l'école joliment dite maternelle, jusque pour les surdoués intellectuels, les grandes écoles qui fournissent à la France ses dirigeants.
Alors, cela dit, lorsqu'on prononce le mot école, il s'agit surtout de l'enseignement des enfants, en quelque sorte.
Bien sûr, ainsi que de l'institution qui s'en charge, l'école publique, républicaine, gratuite et obligatoire et laïque, et puis à côté, l'école libre, souvent confessionnelle.
Alors, pour les intéressés, évidemment, l'école, c'est une contrainte, disions-nous, non seulement parce qu'elle suppose un minimum de discipline, mais aussi parce qu'elle s'oppose aux vacances et aux loisirs.
Tout à fait. Et pourtant, on serait surpris lorsqu'on apprendrait l'origine de ce mot.
Ah, on aimerait bien en savoir plus, c'est-à-dire...
Le mot grec, scolé, d'où viennent le latin scola et notre école, ne s'appliquait pas d'abord au travail et à ses contraintes, mais au contraire, aux loisirs. En latin, le mot ludus signifiait en même temps le jeu et l'école élémentaire. Mais le fait que l'école soit devenue obligatoire explique que pour certains, elle soit devenue contraignante.
Alors, comment expliquer que dans l'Antiquité, l'école était un loisir et non une contrainte?
Eh bien, dans l'Antiquité, le travail, c'est-à-dire celui des esclaves, des paysans, des artisans, était une obligation absolue qui ne laissait aucun loisir. Quant à ceux, par exemple les enfants des classes supérieures, leurs parents ou encore, par exemple, les philosophes qui avaient la chance d'avoir du temps libre, ils rendaient possible l'école, c'est-à-dire un loisir intelligent et formateur.
Alors ça signifie donc que les premières écoles, en tant que loisir, étaient par nature buissonnières, on peut dire.
Oui, et cela était encore vrai il n'y a pas si longtemps. Si je peux faire appel à des souvenirs personnels...
Bah, je vous en prie, Robert, allez-y.
Merci. J'entends encore ma grand-mère, dans les années 50, me raconter son enfance.
Alors, c'était à quelle époque, ça, Robert?
Elle était née et elle avait vécu son enfance à la fin du 19e siècle. Et elle me racontait que, comme presque tous les enfants de son village, dès l'âge de 6 ans, elle aidait ses parents à la ferme du printemps à l'automne et qu'à son grand regret... Elle n'allait à l'école que pendant les mois d'hiver. Alors pour elle, L'école était donc un loisir qu'elle pratiquait avec joie. Mais enfin, là, je m'égare.
Alors, quand même, à l'époque de votre grand-mère, l'école, elle était pourtant obligatoire.
Oui, mais la loi de 1882 stipulait que l'enseignement pouvait être donné à la maison.
Alors, revenons donc à l'origine du mot école.
Oui, ben, elle n'est pas absurde. Elle nous dit que l'école est un luxe lié à un niveau de vie acceptable et à une certaine liberté. Elle dit que les sociétés qui ont le loisir, ce qui veut dire la permission du latin licere, qui ont le loisir de former la jeunesse, se porteront mieux que les autres.
Alors, évidemment, brièvement, on peut en venir à l'actualité de l'école en France aujourd'hui, Robert.
Oui, ben, si l'on se réfère à l'étude faite par le PISA.
Classement PISA, oui, vous rappelez ce que c'est, hein, oui, PISA, ben, parce que dès qu'on utilise des sigles et des acronymes,
ah ben, tout à fait.
Nos auditeurs sont perdus.
Tout à fait, le PISA, ben, c'est un organisme international qui étudie le programme international des suivis des acquis, d'où son nom. Il établit un classement des systèmes scolaires concernant les enfants de 15 ans dans 81 pays.
Alors, qu'en est-il en fait pour la France aujourd'hui ?
Eh bien, les résultats de la dernière enquête, qui date de 2023, montrent que le niveau scolaire de la France, comme d'ailleurs celui de nombreux pays d'Europe, est en forte baisse, mais reste tout de même dans la moyenne des 38 pays de l'OCDE. La France, par exemple, se classe 26e en mathématiques, 25e en sciences et 24e en lecture, ce qui n'est pas forcément rassurant pour notre avenir.
Alors, on peut s'interroger quand même, comment s'explique cette baisse ?
Ben, je crois que, si l'on veut résumer, elle s'explique principalement par le manque d'enseignants et par le climat d'indiscipline qui s'aggrave et qui n'est pas bon, comme nous l'avons dit en début d'émission.
Alors, quels sont les pays les mieux et les moins bien classés ?
Eh bien, Singapour et les pays asiatiques caracolent en tête. Quant à la République dominicaine, elle se classe dernière.
Alors, on vous interroge à chaque fois pour savoir, la semaine prochaine, quel est le mot dont vous allez nous parler, Robert Reverger.
Nous parlerons de grève.
Eh bien oui, alors comme c'est une petite semaine la semaine prochaine, puisqu'il y a un jour en moins, si en plus on fait grève, il ne va pas rester grand-chose.
Tout à fait.
On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Et on vous retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Dans votre émission. À bientôt, Robert.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À 18h18, en direct sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes, on rappelle aussi quelques rendez-vous avant de retrouver notre maire ce soir. Vous savez qu'il y a un match de foot ce soir. Hein. Je ne sais pas, Robert, vous suivez l'actualité du foot ? Vous savez qu'il y a Reims-Marseille quand même ce soir. Et c'est au stade de l'Aune. Il va y avoir beaucoup de monde et il y a quand même quelques bouchons qui se préparent du côté de l'avenue Paul Doumer.
On a vu ça
tout à l'heure. Donc, le match de foot. Et puis, dans l'actualité, on reviendra également sur des négociations qu'on a en ce moment à propos des médecins, puisque vous savez qu'il y a des revendications et des discussions qui sont actuellement en cours dans un certain nombre de ministères. On y reviendra d'ailleurs la semaine prochaine. Tout de suite, on va retrouver notre maire. Il nous parle depuis Ille-sur-Suippe. Il s'appelle Guy Riffet. Il est avec nous. Guy Riffet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors Ille-sur-Suippe, on connaît parfaitement. Autrefois, on passait dans le bourg. Aujourd'hui, on est un petit peu dévié forcément par la 34. Vous êtes maire depuis déjà quelques années. Ille-sur-Suippe, c'est combien d'habitants, monsieur le maire, aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, Ille-sur-Suippe, c'est 980 habitants.
Oui, c'est quand même pratiquement 1000. Et vous êtes en augmentation régulière. Vous avez peut-être dépassé les 1000 dans quelques temps.
Nous dépasserons certainement les 1000 dans quelques temps. On est en une augmentation très régulière, mais lente.
Comment peut-on qualifier les habitants d'Ille-sur-Suippe ? Il y a, bien sûr, comme dans toutes les communes, des personnes plus âgées, plus jeunes. Est-ce qu'il y a des gens qui s'installent à Ille-sur-Suippe ? À la suite du Covid, il y a des gens qui ont voulu s'installer un peu plus en périphérie de Reims ou à la campagne ?
Bon, je pense que sur Ille-sur-Suippe, les gens qui viennent, ils viennent parce que c'est la proximité de Reims, grâce à la mise en place de l'autoroute A34, et donc qui nous amène à Reims très rapidement. Et les gens qui sont sur Ille-sur-Suippe, aujourd'hui, on a une population relativement jeune, avec une grande partie de population qui se trouve entre 30 et 45 ans. Et si on compte les moins de 10 ans, il y a à peu près 130 enfants de moins de 10 ans sur Ille-sur-Suippe.
Ça veut dire aussi de la population pour les écoles, évidemment.
Alors nous n'avons pas d'école à Isle-sur-Suip, puisque nous étions en regroupement scolaire avec Eutrégiville, Varmeryville, mais l'école que nous avons construite dans le cadre de la communauté de communes de la Vallée de la Suip à l'époque s'est trouvée trop petite, et elle est toujours trop petite. Il y a vraiment beaucoup d'enfants dans cette école qui s'appelle la Doline, ce qui fait qu'il y a eu un redécoupage de la carte scolaire et maintenant les enfants d'Isle-sur-Suip sont rattachés à l'école de Bazancourt. Mais c'est quelque chose, c'est un mouvement très lent puisque avec les dérogations possibles liées à l'intériorité, aujourd'hui les enfants progressivement ce sont les nouveaux qui rentrent à l'école qui s'en vont sur Bazancourt.
Vous êtes maire de la commune depuis plusieurs années.
Je suis maire de la commune depuis 1989.
Mais ça veut dire, vous étiez originaire de la commune, vous aviez été adjoint avant. Comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui trouvent que, et ils ont raison je crois, que être maire, c'est presque un temps plein aujourd'hui. Tellement il y a de choses à faire, tellement on est interpellé par les gens parfois.
Oui, c'est exact, ça dépend un peu de la dimension de la population. Et puis aussi, on va dire qu'il y a deux difficultés, les petites communes ont peut-être moins de besoin de présence du maire, mais à partir de certaines dimensions, la présence est importante. Mais elle n'est pas suffisante pour avoir un staff administratif et technique assez important.
Et justement, c'est la question un petit peu idiote que je m'étais permis de poser. C'est-à-dire que, est-ce que quand on passe les 1000 habitants, on est dans une autre catégorie qui vous permettrait d'avoir un petit staff? Non, pas vraiment.
Il faudrait. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu là où il y a une difficulté pour les maires des communes moyennes, on va dire entre 500 et 1500 habitants, c'est que bien souvent, il n'y a pas ce staff. Et aussi, il y a une certaine, pas crainte, mais j'ai envie de dire pudeur pour ne pas développer le staff. Et je crois que c'est une erreur. C'est une erreur que je mesure personnellement aussi. On s'aperçoit qu'il faut être entouré de personnes pour pouvoir à la fois assurer un bon contact avec la population et assurer le suivi de tous les dossiers.
Il faut dire aussi que ça se complexifie pour un maire. La situation administrative, les papiers, la paperasserie, comme on dit, vous devez en être un peu submergé parfois.
Alors on est submergé de l'arrivée de circulaires. Maintenant, avec le système des mails qui arrive en permanence, je crois qu'on est dévoré, le temps est dévoré par tous ces courriels qui arrivent. Ça, c'est quelque chose sur lequel il va y avoir besoin de faire une réflexion, car il faudrait pouvoir faire un tri très sélectif de ce qui est utile et ce qui n'est pas utile.
D'ailleurs, ça se voit dans le monde de l'entreprise. Il y a certains chefs d'entreprise qui se plaignent parce que leurs salariés, en général, dans les entreprises qui sont un peu importantes, ils passent la moitié de leur temps à essayer de lire leurs mails. Bon, c'est pas le métier premier qu'on leur demande de faire, en général.
Exactement, exactement. Et c'est un problème culturel. Je pense que aujourd'hui, on n'a pas encore fait notre évolution là-dessus en considérant en permanence qu'il faut lire ce qui nous arrive. Et je crois que ça, c'est vraiment important de prendre conscience que tout ce qui arrive n'est pas important et qu'on n'est pas obligé de tout lire.
Et puis de répondre à tout, bien entendu.
Il faut aussi dire à nos interlocuteurs, ne m'envoyez que ce qui est important.
Vous l'avez déjà plus ou moins dit, mais vous étiez vous-même originaire, vous êtes né à Isle-sur-Suip, vous étiez dans la région au départ?
Oh non, non, je suis originaire du sud de Fontainebleau, vous voyez, en lisière de la forêt.
Et vous êtes attaché, passionné par votre commune. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'événements qui vont se dérouler. À la fin du mois de juin, il y a un superbe concert à l'église avec la maîtrise de la cathédrale. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler, je crois. Vous avez aussi une brocante tout prochainement. Donc, il y a une animation dans votre commune, monsieur le maire.
Oui, je crois qu'il y a une excellente animation. Quand on fait le bilan en début d'année de la programmation de l'année à venir, on s'aperçoit que finalement, il y a peu de répit pour ceux qui organisent. Et donc, j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe dynamique qui organise toutes ces manifestations. Il y a plusieurs associations, l'association Famille Rurale, l'association Ils Animent, et puis ensuite, il y a des associations qui sont en soutien de ces deux associations. Il y a vraiment un excellent travail de coopération entre elles.
Alors il faut dire aussi, monsieur le maire, que vous avez une église un peu particulière à Isle-sur-Suip. Il y en a quelques-unes en France, mais pas de cette manière. C'est-à-dire que les églises, en général, le chœur fait la courbe de la croix, enfin les deux croix qui se séparent, c'est tout droit. Et vous, l'église d'Isle-sur-Suip, elle se courbe un petit peu à un moment donné, non? C'est pour nous expliquer, monsieur le maire.
Oui, c'est une caractéristique de notre église, comme quelques autres en France. le cœur n'est pas dans l'axe, effectivement. Et donc, il se tourne un peu, et on dit que ceci représente la tête penchée du Christ sur la croix. Alors, je ne sais pas si c'est exact ou pas, si c'est une construction volontaire ou pas, ou si c'est un accident des bâtisseurs, je ne sais pas exactement. Mais toujours est-il que c'est comme ça, et on dit que l'église de l'Île-sur-Suip est désaxée.
Et oui, l'église est désaxée, mais c'est vrai que c'est un trait caractéristique de l'église d'Île-sur-Suip. On vous propose, monsieur le maire, de vous retrouver, parce que on a dit la moitié de ce qu'on pouvait dire sur la commune d'Île-sur-Suip. Et ce que je vous propose, c'est d'ici la fin de l'année, avant le 28 juin, de revenir une fois à l'antenne de RCF pour que vous nous parliez davantage encore de votre magnifique commune. Et monsieur le maire, on sent que vous êtes un passionné. On vous remercie d'avoir été avec nous et à très très bientôt sur RCF. Au revoir.
Au revoir Jean-Pierre.
Le 18-19 sur RCF.
Eh bien oui, on remercie bien sûr le maire d'Île-sur-Suip, Guy Riffé, et on vous donne rendez-vous d'ailleurs dès demain, à partir de midi, avec Nicolas Poiret, qui est le maire de Warnécourt et qui sera avec nous. Et puis dans quelques minutes, on reviendra sur le pèlerinage important qui a lieu le lundi de Pentecôte, au lac de Béron, un rendez-vous diocésain. On l'évoquera d'ailleurs aussi demain matin avec Olivier Delalle, qui est économe diocésain et qui est membre du comité d'organisation de cette journée du lundi de Pentecôte. Et puis dans quelques instants, juste après le journal régional proposé par Alexis Claudretz, on retrouvera Jean-Marc Rose, le président du conseil départemental de la Marne. Mais tout de suite, avant de parler football et du match Reims contre Marseille, je vous propose de retrouver Alexis Claudretz pour le journal régional.
Bonjour à toutes et à tous, merci Jean-Pierre. Les titres de ce mercredi 15 mai, une reconstitution historique sur le thème de la Première Guerre mondiale se tiendra ce week-end au centre d'interprétation Marne 14-18 à Suip Découverte. Rendez-vous du 23 au 26 mai pour la 15e édition du festival Orbis Pictus, festival de formes brèves marionnettiques qui se tiendra à Reims. Zoom sur la programmation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais avant de développer ces titres, aujourd'hui se tenait la journée nationale de l'innovation dans l'Académie de Reims. Retour sur cet événement avec Inès Elgaloussi.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et l'Académie de Reims ont accueilli la journée nationale de l'innovation. Cette journée a été organisée au Centre des congrès de Reims ce mercredi 15 mai 2024. L'événement sera concentré cette année sur les projets issus du dispositif « Notre école, faisons-la ensemble » consacré au Conseil national de la refondation. Vers 9h, le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, a ouvert la journée en prononçant son discours présenté en plénière. La 14e édition de la Journée nationale de l'innovation est organisée pour valoriser la capacité d'expérimentation et d'innovation du système éducatif. La journée s'est articulée aujourd'hui autour de trois thématiques telles que le fait de travailler sur les fondamentaux autrement, mettre les compétences psychosociales au cœur des apprentissages et enfin enrichir la culture générale des élèves. Les enseignants ont assisté à des tables rondes ainsi qu'à des ateliers animés par des experts du monde éducatif et de l'université. Cette journée a été l'occasion pour l'Académie de Reims de signer une convention avec le programme Innovation, Données et Expérimentation en Éducation. Ce programme consiste à alimenter la réflexion en matière de politique publique et de pratiques professionnelles en éducation en France.
Merci Inès, on aura effectivement l'occasion de revenir sur la signature de cette convention prochainement avec Maryse Pisano-Bollers, conseillère académique en recherche, développement, innovation et expérimentation. Nouveau coup dur pour la communauté de communes du pays rotellois, le budget a de nouveau été rejeté au conseil communautaire hier soir. Il l'avait été une première fois mi-avril, ce qui avait provoqué la démission du président de la Comcom, Renaud Averly. C'est donc désormais la chambre régionale des comptes qui va se saisir du budget de la collectivité. plusieurs élus regrettent de ne pas pouvoir s'exprimer librement puisque le vote est fait à main levée. L'achat d'une valise électronique avait déjà été discuté. Placé sur l'ancien front de Champagne à Suippes, le centre d'interprétation Marne 14-18, en partenariat avec la commune de Suippes et l'association Le Poilu de la Marne, propose un week-end de reconstitution historique sur le thème de la Première Guerre mondiale. Sarah Caramel, responsable du centre d'interprétation Marne 14-18.
Le Poilu de la Marne vient installer son campement juste à côté du musée, derrière l'église de Suippes. Et pendant tout le week-end, ils vont présenter la vie dans les tranchées, essayer de faire revivre au public la Première Guerre mondiale avec différents ateliers sur différents thèmes, les services sanitaires, les équipements, l'artisanat de tranchées, voilà, il y aura différents thèmes. Et puis, petite nouveauté cette année, on va avoir des exposants en modélisme qui vont refaire des scènes de la guerre 14-18 dans la grande salle de la communauté de communes qui est vraiment en face du musée, donc ça ferait vraiment un parcours de visite complètement cohérent, parce qu'on peut aussi visiter le musée pendant tout le week-end. Le campement, il sera là, alors il s'installe jeudi soir, le vendredi, il va recevoir différentes classes des écoles et du collège de Suippes, donc c'est consacré aux scolaires, et puis samedi dimanche, c'est pour le grand public, avec des tirs au canon qui sont prévus en milieu d'après-midi, alors ce sera sans doute vers 15h.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Une manifestation à découvrir ce samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 17h. Parallèlement à ces animations et dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le centre d'interprétation sera ouvert gratuitement au public, offrant à chacun l'opportunité de prolonger cette immersion dans l'histoire le temps d'un week-end. Nous reviendrons plus en détail sur la Nuit européenne des musées demain jeudi avec notre invité Patrick Lechanu, conseiller musée à la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Le 4L, le bar associatif d'Adaltum pour les 18-35 ans, organise une nouvelle conférence demain, jeudi 16 mai à 20h, Arnaud Robinet viendra parler de ses missions de maire et des projets qu'il porte pour la ville de Reims, entrée aux 4 rues du lieutenant Erdoin. Focus ce soir sur le festival Orbis Pictus, le 15e du nom, qui se tiendra du 23 au 26 mai. Il s'installera à quartier Forum, centre historique de Reims, pour un rendez-vous attendu entre artistes et public, avec une nouveauté en 2024. Le festival ouvre d'abord ses portes aux scolaires et aux groupes le jeudi 23 et vendredi 24 mai, puis ce sera une quinzaine de compagnies de marionnettes contemporaines qui envahiront le forum du Cryptoportique au musée Hôtel Le Vergeur. Également une nouvelle figure de la cathédrale Notre-Dame de Reims déambulera dans les rues du centre, David Girondin-Moab, co-directeur du Jardin Parallèle, structure qui porte Orbis Pictus, nous en dit plus.
On est complètement installé dans le quartier Forum et ça a très bien marché. C'est vrai qu'on se dit que c'est un nouveau format, c'est un nouvel objet, mais ça a bien pris racine là-bas et ça se passe très bien avec le public. C'est un vrai rendez-vous qui s'est renouvelé, quoi, en fait. Alors, au Cellier, d'abord, le jeudi 23 et le vendredi 24, c'est là que ça commence avec deux spectacles qui sont joués au Cellier, Océan de la compagnie Succursale 101 et Casou dans la nuit de Singe Diesel. C'est plutôt des spectacles sur ces deux premières dates qui sont adressés aux scolaires, mais s'il y a des groupes ou s'il y a des personnes qui veulent venir et qui peuvent venir sur ces dates-là, c'est possible, même si, encore une fois, c'est les scolaires qui débutent et qui initient le festival au Cellier. À noter déjà que le 23 et 24, il y a ces spectacles qui jouent, mais qui joueront aussi le 25 et 26, sur les 4 jours. Et ensuite, le vendredi soir, il y a l'inauguration, et là, ça se déploie dans les jardins de l'Hôtel Le Vergeur, un peu dans l'Hôtel Le Vergeur lui-même, et puis dans le Cryptoportique. Ça, c'est pour les lieux où le parcours peut se dérouler pour le public. Et puis ensuite, le parcours se déroule aussi dans la ville, avec le déploiement des visiteurs, qui est un parcours immersif avec casque audio, où on est un peu dans un monde absurde, où on redécouvre la ville. Et puis, il y a les pizza puppets qui vont jouer aussi à droite, à gauche, qui vont faire des impromptus dans toute la ville, plutôt dans le centre, un peu en amont du festival, on pourra les découvrir dans certains lieux atypiques de la ville, dans les bars. Et puis, il y aura également deux gargouilles, des personnages qu'on a un peu décrochés métaphoriquement de la façade de la cathédrale et qui entrent dans le cadre d'un plus grand projet qu'on a appelé Cracheur de plomb. Et cette année, on a une deuxième gargouille qui a été créée lors d'un atelier participatif avec Eduardo Félix et qui va être présentée, inaugurée à Orbis Pictus.
Un événement marionnettique qui puise sa force dans le rythme des parcours, la richesse de la balade et la qualité des découvertes que suscite Spectacle et Patrimoine Vivant dont RCF France-Ardennes est fier d'être partenaire. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Sport, basket, les Flammes Carolo ont clôturé la saison de Ligue Féminine 2023-2024 par un succès hier soir, victoire 89-71 dans le classique face à Saint-Amand-Hainaut qui est relégué en Ligue Féminine 2. Les Ardennaises termine à la 9e place du classement. Football, avant-dernier match de la saison de Ligue 1 pour le Stade de Reims ce soir. Les Rémois reçoivent Marseille à 21h avec l'objectif de finir le plus haut possible au classement alors que les Marseillais courent après une qualification en Coupe d'Europe. La météo de demain, c'est avec Mélina Erich. Bonsoir Médina.
Bonsoir Alexis.
Quelles sont les tendances pour ce jeudi en Champagne-Ardenne?
Ce soir, dans les Ardennes, les températures seront assez douces, allant de 12 degrés à Vouziers, 13 degrés à Charleville-Mézières et Sedan, à 15 degrés à Rethel. En Marne et en Haute-Marne, nous nous endormirons sous un ciel nuageux et il fera 13 degrés pour l'ensemble de ces départements. Dans l'Aube, nous retrouverons des températures entre 12 et 13 degrés notamment, à Romilly-sur-Seine et Bar-sur-Seine. Demain matin, les températures resteront inchangées, toujours 15 degrés dans les Ardennes, 14 degrés dans la Marne, 13 degrés dans la Haute-Marne et dans l'Aube. Toutefois, prévoyez un petit parapluie de secours puisqu'il n'est pas impossible que la pluie montre le bout de son nez dans la matinée. Concernant le temps de demain après-midi dans les Ardennes, les températures augmenteront légèrement jusqu'à 16 degrés, accompagnées d'un ciel pluvieux. Il en va de même pour le département de la Marne qui, toutefois, accueillera une chaleur plus présente, notamment à Sainte-Menou où il fera 16 degrés, puis 17 degrés à Reims et on retrouvera un joli 18 degrés à Châlons-en-Champagne, Sézanne et Épernay où quelques éclaircies égayeront votre après-midi. À Saint-Dizier, en Haute-Marne, les nuages seront bien présents sur l'ensemble du département, avec des températures autour des 17 degrés. À présent, dans l'Aube, la pluie sera elle aussi bel et bien au rendez-vous. Cependant, vous profiterez de douces températures allant de 17 degrés à Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine, 18 degrés à Troyes et Romilly-sur-Seine, jusqu'à 19 degrés à Arcis-sur-Aube. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête aux honorés et en attendant, je vous souhaite une agréable soirée.
Merci Médina, une très bonne soirée à vous également, une bonne fête en avance à tous les honorés. Et puis, nos auditeurs ont appris à connaître ces derniers jours deux nouvelles voix avec nos stagiaires à la rédaction, Inès et Médina. On vous avait parlé d'une troisième stagiaire, elle est avec nous ce soir pour ce journal régional. Il s'agit d'Ilona. Ilona, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Et toi, tu es plus sur le pôle communication, alors on t'entend un petit peu moins à l'antenne. Mais nos auditeurs auront la joie de découvrir ton portrait, ça sera vendredi matin à 7h40 dans le 3 questions A. Juste en quelques mots pour nos auditeurs qui nous écoutent le soir en région, d'où viens-tu et que fais-tu ici à RCF?
Alors du coup, je m'appelle Ilona, j'ai 20 ans et je suis chez RCF pour un stage d'une durée de 7 semaines. Donc c'est un stage dans le cadre de mes études en communication. Pour l'instant, je suis en première année au lycée Saint-Michel.
Et c'est déjà pas mal. On aura l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur toi vendredi matin, 7h40. Dans quelques instants, le 18-19 en Champagne continue avec Jean-Pierre Benoît et ses invités. Très bonne soirée.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Merci Alexis, je sais que vous avez l'œil rivé sur la pelouse du stade Auguste Delaune puisque nous vivrons ce soir le match de Ligue 1 Reims-Marseille. Nous aurons l'occasion dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans le magazine du week-end de revenir sur ce qui se passe à Neuvisy avec ce pèlerinage marial, toutes ces successions de rendez-vous qui vont avoir lieu au mois de mai. On en parlera tout prochainement avec Jacques Oudard, diacre dans le diocèse de Reims. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver le président du conseil des départemental de la Marne, Jean-Marc Rose, il est avec nous aujourd'hui. Jean-Marc Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, l'actualité, c'était 2 milliards investis dans la région, la visite du président de la République, Emmanuel Macron, pour l'usine McCain. C'est plutôt une bonne nouvelle, Jean-Marc Rose ?
Oui, c'est une bonne nouvelle, puisque malgré que la somme attendue sur la Marne est moindre par rapport à l'investissement global des trois usines McCain, puisqu'il s'agit de 350 millions d'euros, seulement 25 seront posés sur la Marne, à l'usine de Matoug. Mais c'est quand même très intéressant pour nous, puisque ça créera de l'emploi, et ça montre aussi que la Marne reste attractive.
Mais Jean-Marc Rose, quand on a près de soi le président de la République, il peut arriver qu'on échange sur d'autres sujets. Alors même si vous ne pouvez pas tout dire, il y a peut-être des échanges qui peuvent être intéressants.
Oui, on a eu un échange de quelques minutes, ainsi que d'autres collègues parlementaires qui étaient avec moi. Nous avons parlé par exemple de Vatry, où j'ai réexpliqué au président tout l'intérêt stratégique de cet aéroport, qui dans 8-10 ans sera probablement très utile à la France, en tous les cas au niveau du fret. Et j'ai expliqué aussi les problèmes que nous rencontrions pour le développement de la ZAC d'activité 3, puisque la 1 et la 2, on peut parler de ce qui marche à Vatry, c'est les ZAC d'activité, puisqu'on a généré 1300 emplois. Et là, on a des soucis avec le développement de la ZAC 3, car elle serait en zéro artificialisation nette, et ce qui est un peu dommage.
Alors, ce qui veut dire, Jean-Marc Rose, ces ZAC, ces zones artisanales, elles apportent un souffle complètement nouveau, mais à cause des normes environnementales, la troisième zone, vous dites, bon, il faut se battre quand même.
Vous savez, j'ai été industriel, Jean-Pierre, et la France a toujours été un pays de normes. Je crois que pour la ZAN...
Depuis toujours.
Et d'ailleurs, lorsque j'étais industriel, dans mon passé industriel, on avait plus de normes en France que les normes européennes, ce qui d'ailleurs rendait nos produits plus chers.
On en rajoutait toujours un peu une louche, à vrai dire.
Absolument.
France.
Et d'ailleurs, on est les seuls, je crois, le seul pays au monde à avoir une ZAN.
Alors justement, en tant que président du conseil départemental de la Marne, on l'entend aussi un peu souvent sur le plan national, la difficulté financière des départements. Elle existe en ce moment.
Alors, elle existe. Et d'ailleurs, on en a la preuve, puisque fin 2023, sur les comptes administratifs des départements français, 13 sont dans le rouge. Donc, sont en dépensent plus que leurs recettes. Et cette année, en 2024, nous attendons malheureusement un département sur deux, c'est-à-dire 50 départements sur les 100 départements français qui seront dans le rouge.
Alors, d'ailleurs, vous avez rencontré tout récemment, dans les Alpes-Maritimes, Charles Anginesi, qui est le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Et là aussi, même dans des départements relativement riches, ils connaissent des difficultés.
Tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer Charles Anginesi, qui m'a reçu, et je le remercie encore. Nous avons pu échanger sur nos états financiers. Et je me suis rendu compte que, par exemple, sur ce qu'on appelle, je veux pas être trop technique, Jean-Pierre, mais sur les droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire ce que paye un acquéreur d'immobilier chez le notaire. Lorsqu'on achète un appartement ou une maison, on paye en général 8 à 8,5% du montant du bien. Nous, dans la Marne, on avait battu les records en 2022 avec 103 millions. En 2023, on a fait 83, et cette année, si on fait 70, on sera bien content. Eh bien, dans les Alpes-Maritimes, ils avaient, eux, sur un budget qui est du double de nous, puisqu'ils ont le double d'habitants. Sur 1,2 milliard, les droits de mutation à titre onéreux représentent 600 millions, Jean-Pierre, 600 millions.
600 millions.
Oui. Eh bien, en 2023, au lieu de faire 600 millions comme en 2022, on n'en fait que 450. Et ils pensent en faire entre 350 et 400 cette année. C'est-à-dire que si on compare ce que les Alpes-Maritimes vont avoir comme droit de mutation à titre onéreux par rapport à 2022, ils auront perdu entre 200 et 250 millions d'euros. C'est énorme.
C'est énorme. Jean-Marc Rose, on va évoquer bien sûr vos visites dans le département de la Marne, dans les cantons, dans quelques instants. Puis on terminera par la flâne olympique. Mais en attendant, il y a certains sujets qui vous tiennent à cœur. On sait le handicap, priorité dans le département. Mais vous êtes aussi sensible au fait qu'il y a moins de natalité en France. Mais vous dites qu'il y a peut-être de plus en plus d'enfants malheureux, qui sont dans des situations difficiles. Et là, vous y êtes sensible en tant que président du département.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un constat, vous l'avez souligné, Jean-Pierre. Il y a effectivement moins de natalité en France. Ça nous est prouvé par les chiffres. Mais nous avons, nous, au département, plus d'enfants à l'aide dans l'enfance. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une dégradation dans les familles. On ne le fait que constater. Et donc, nous avons créé ce qu'on appelle les états généraux de l'enfance. D'ailleurs, Mme Vautrin, la ministre en charge des solidarités, entre autres, puisqu'elle a également la santé et le travail, viendra démarrer ces états généraux.
Ça veut dire qu'en juin... Vous connaissez Catherine Vautrin, elle va se déplacer assez bien, et même très bien, et elle va venir vous donner peut-être, c'est quand même un atout, peut-être vous donner un coup de main supplémentaire.
Je l'espère, en tous les cas, elle va nous écouter, elle va se renseigner, parce qu'elle ne peut pas tout savoir, elle vient récupérer 3 gros ministères, et donc elle sera présente, et elle nous fait l'honneur de démarrer ces états généraux, et j'espère que l'État, au travers de Mme Vautrin, pourra nous aider au moins sur un investissement.
Parce que vous aviez mis en place des maisons de l'enfance, et ça c'est très très important.
Alors
ce
on a absolument, on a plusieurs foyers de l'enfance que j'ai visités. On a également ce qu'on appelle les MEX, les maisons de l'enfance à caractère social. On en a une petite quinzaine. Je les visite actuellement. On a aussi ce qu'on appelle le SAMI, c'est les maisons de l'enfance pour les mineurs non accompagnés. Tiens, un chiffre, Jean-Pierre. Nous, les mineurs non accompagnés, on en avait 150 en 2022, 250 l'année dernière, et cette année, on est sur une projection à 350.
Et là, ça vous coûte aussi de l'argent, hein, bien sûr.
Alors, non seulement ça nous coûte, bien sûr, mais surtout, ça prend la place des enfants marnais, qui doivent être également, eux, aidés.
Alors toutes ces difficultés, bien sûr, vous essayez de vous lutter pour améliorer le quotidien et vous faites beaucoup de visites cantonales. Récemment, vous étiez à Sainte-Menoux, on peut en parler, mais vous avez été à Vertu, à Cormontreuil, à Cézanne, en Argonne, dans des coins parfois qui souffrent, et vous le constatez.
Oui, alors vous savez, je dis toujours, c'est un leitmotiv, mais il est quand même extrêmement important. Je parle toujours de solidarité des hommes et de solidarité des territoires. Eh bien, l'Argonne a besoin de la solidarité des territoires de la Marne parce que c'est certainement un canton qui souffre plus que d'autres parce que, par exemple, il y a une désertification médicale et nous aidons avec la mutualité et l'ARS. Nous avons aidé à la création d'un établissement médical. Voilà, c'est tout ça qu'on entend et c'est intéressant aussi d'échanger avec tous les élus locaux de ces cantons.
Et l'élu rémois que vous êtes fait la preuve par A plus B tous les jours qu'il est bien le président de tous les Marnais.
Je le pense, je l'espère en tous les cas, c'est mon travail et je veux être absolument, oui, le président de toute la Marne.
Alors justement, dans le mois de juin, un événement majeur en juillet, tout le monde va en parler, c'est les Jeux Olympiques. Et la flamme olympique, elle va traverser le département, financement du département. Le 30 juin, il va y avoir quand même des événements ici, Jean-Marc Rose.
Oui, tout à fait. Alors, la flamme olympique, vous savez que il y a, je crois, un peu plus d'un département sur deux qui verront la flamme olympique la traverser. Dans la Marne, je peux vous le dire, il y a plusieurs, je crois que c'est 7 au total, communes qui seront visitées par cette flamme. On démarrera à Giffaumont sur le lac du Der et nous terminerons, alors après avoir passé à Châlons, à Sainte-Menoult justement, à Épernay, à Cézanne, nous terminerons dans la ville étape de Reims où avec monsieur le maire de Reims nous tenons à faire un stand commun. Je voudrais souligner ce que me dit mon vice-président en charge du sport. Ce passage de la flamme, c'est pas que le passage de la flamme, mais c'est aussi un état d'esprit, c'est de développer au-delà du sport le bien-être de l'homme.
Merci en tout cas Jean-Marc Rose d'avoir été avec nous, ça passe très vite. Il va falloir faire une autre émission, je sais que vous allez dire oui.
Merci Jean-Pierre.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h47 minutes pratiquement, c'est l'heure pour nous de parler diocèse. On sait que dans le diocèse de Châlons, il y a eu un formidable pèlerinage du côté de Notre-Dame de l'Épine. Eh bien nous prenons la direction de Béron, à quelques kilomètres du Chêne, dans le département des Ardennes. Et pour nous en parler avec nous, nous accueillons Olivier Delalle, économe diocésain. Olivier Delalle, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que le lundi de Pentecôte, nous allons vivre un grand moment, Olivier Delalle, qui s'inscrit dans un itinéraire de pèlerinage.
Exactement. En fait, ça va être le troisième pèlerinage. Notre archevêque, quand il est arrivé, alors bon, on va pas revenir sur les circonstances sanitaires qui ont compliqué un petit peu les idées qu'il a pu avoir. Mais en tout cas, quand il est arrivé, très vite, s'est dit, et si on organisait un pèlerinage, enfin une série de pèlerinages sur le thème « La Terre Sainte chez nous ». Alors on a commencé par le désert, hein, qui au Moyen-Âge, le désert c'était la forêt, et donc quelle plus belle forêt que la forêt des Ardennes, et donc on a commencé à Saint-Valfroid, puis en pèlerinant autour de Saint-Valfroid dans la forêt. La montagne, l'an dernier, à Igny. Alors la montagne, autant qu'on puisse avoir la montagne chez nous, mais malgré tout, hein, il y avait quand même quelques côtes, je pense que les mollets de certains s'en souviennent. Donc cette année, le thème qui a été retenu, c'est le lac. C'est à partir de la phrase de Jean, Jésus se manifesta de nouveau à ses disciples au bord du lac, et le lac en question, eh bien, c'est le lac de Béron.
Alors on remarque sur le plan géographique, Olivier Delalle, vous venez de nous le dire, on démarrait de la montagne, c'était les Ardennes, Saint-Valfroid, on est revenu dans la Marne du côté d'Igny, et là on repart dans les Ardennes, c'est sans doute un peu voulu tout ça.
Ah bah oui, forcément, hein, le diocèse de Reims, c'était à l'époque, on dit l'arrondissement de Reims, alors en tout cas c'est l'agglomération de Reims en gros, et puis la totalité du département des Ardennes, hein, donc il y a au moins autant d'Ardennais que de Marnais dans notre diocèse, donc heureusement qu'on va faire ce pèlerinage dans les Ardennes, c'est une bonne chose.
Alors vous pilotez cette organisation, ça demande quand même beaucoup de travail. Beaucoup de personnes sur place aussi, dans les espaces missionnaires, qui vont donner un coup de main. Comment ça s'organise?
Alors, ce qui est formidable, c'est que l'espace missionnaire qui nous reçoit, c'est très très investi. Donc, c'est des gens autour du Chêne et de toutes les... Donc, le lac de Béron, c'est à côté du Chêne. Mais donc, des gens de l'espace missionnaire Ardennes Sud qui se sont motivés et qui vont nous accueillir. Alors, je peux pas vous dévoiler toutes les surprises. Enfin, ils sont quand même... Vous savez que vous n'allez quand même pas dans les Ardennes sans prendre à un moment ou un autre une tasse de café et un morceau de tarte au sucre. Bon, il est vraisemblable qu'on puisse aussi, donc lors de ce pèlerinage, bénéficier de cette petite spécialité qui est d'accueil, qui est formidable. Les gens de cet espace se sont motivés pour l'accueil, pour la décoration de l'espace liturgique, pour même faire une exposition sur... les trésors patrimoniaux qui sont autour du lac. Enfin,
il y a une vraie motivation, une vraie mobilisation.
Oui, vraiment. Moi, ce que je trouve très beau et qui est un petit peu ce qu'on essayait de mettre en place, puis il faut démarrer, c'est on est vraiment accueilli par l'espace missionnaire, on est accueilli par la paroisse et par les paroisses alentours et qui sont très investis, c'est vraiment formidable.
Alors sur le plan pratique, Olivier Delalle, il y a une heure de démarrage, une heure de fin et puis voilà. Il y a tout un programme. Peut-être un peu à la carte, même si il faut mieux participer à l'ensemble.
Oui, c'est sûr. Enfin, il y a des propositions, et puis après, chacun s'inscrit comme il veut. Quand on dit pèlerinage, on dit un peu marche quand même. Voilà. Donc, après avoir écouté ceux qui avaient fait les précédents pèlerinages, on nous a dit, écoutez, c'est bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est que les marches durent un peu moins longtemps, et qu'on ait davantage de temps pour partager entre nous. Parce qu'en fait, on n'a pas tant de temps que ça dans l'année pour se retrouver. Et du coup, nous avons écouté cette demande et nous avons raccourci un peu les marches. Les années précédentes, elles faisaient autour de 8 km. Elles font plutôt autour de 5,5-6 cette fois-ci. Avec, du coup, comme on a le même temps pour les faire, un peu plus de temps pour partager. C'est le secteur missionnaire Reims-Ouest qui a préparé la méditation, donc un livret du pèlerin qui permettra à chacun de partager et puis de prier pendant ce temps de marche.
Et alors, je vous interromps, Olivier Delalle, mais comme c'est diocésain, on vient des espaces missionnaires, peut-être comme à chaque fois, avec des couleurs, on arrive ensemble, on arrive en groupe, il y a des bus, enfin, c'est quand même très organisé.
Quand on est parti un peu comme ça, la première fois, on s'est dit, tiens, on va faire marcher tout le monde en espace missionnaire. Vous savez, on sortait de tous ces épisodes qui compliquaient les rassemblements, et donc il y avait une forte envie de se retrouver, donc on s'est dit, allez, on avait démarré les espaces missionnaires avec, on s'est un peu fait rattraper par les interdictions de se retrouver.
Et puis donc, on a senti tout de suite la joie de se retrouver, de faire une famille diocésaine, c'est très important.
Et les gens qu'on a interrogés un peu pour savoir si on continuait, vous savez, il faut toujours un peu vérifier que si vous avez beau avoir des idées géniales, si les gens les trouvent pas géniales, c'est pas grand intérêt. Donc on a un peu vérifié s'il fallait continuer ou pas. Et vraiment la demande qui a été faite, c'est on souhaite tant que c'est possible marcher en espace missionnaire. Excusez-moi.
Et ensuite on se retrouve ensemble.
Et après on se retrouve ensemble. Alors, et je vais vous détailler un petit peu. Je voudrais juste insister quand même sur deux choses importantes. C'est qu'il y a une catégorie pour laquelle on n'a pas trop raccourci la distance, c'est les jeunes. Il va y avoir entre 250 et 300 collégiens annoncés, là peut-être un peu plus. Donc ceux-là, ils ont un parcours un peu plus long parce qu'ils ont quand même la capacité de marcher un peu plus vite.
C'est des vrais sportifs.
Voilà, enfin j'espère en tout cas, parce que bon, ils ont une marche un petit peu plus longue. Et puis il y a aussi à l'autre bout du spectre ceux qui ont plus de mal à marcher et qui vont rester sur place avec une attention particulière cette année. En fait, si vous vous rappelez l'année dernière, les gens qui étaient sur place ont eu un très beau parcours avec les communautés religieuses du diocèse. Et donc c'était formidable, ça a eu beaucoup de succès, mais un certain nombre ont dit « oui, mais on n'a pas vécu la même chose que ceux qui marchaient ». Donc là, ce qu'on a fait cette année, c'est que si vous restez sur place, vous aurez un temps de pèlerinage sur place et vous aurez un temps de pèlerinage avec la même démarche que ceux qui marchent.
Avec la même tonalité.
Exactement.
Alors sur le plan pratique, Olivier Delalle, ceux qui nous écoutent, auditrices et auditeurs ce matin, ils se disent comment venir? Ou bien ils sont inscrits, ou bien ils sont pas inscrits, ou bien est-ce qu'ils peuvent venir tout seuls? Comment ça se passe?
Alors, tout est possible. Vous pouvez vous munir de votre téléphone et appeler votre paroisse ou le secrétariat de votre espace missionnaire. Je pense qu'il doit rester encore quelques places. Il y a une vingtaine de bus qui sont attendus. Il doit rester encore quelques places dans certains bus. Donc là, vous pouvez vous manifester. Vous pouvez bien sûr venir en voiture. De Reims, c'est une petite heure, je peux vous dire, je l'ai fait plusieurs fois cette semaine, et je pense qu'il y aura moins de monde encore lundi, sur la route que dans la semaine. C'est une petite heure de Reims.
Alors, une petite colle, Olivier Delalle.
Oui.
De Reims, pour aller à Béron, quel est l'itinéraire le plus pratique quand on vient en voiture?
Alors, il faut prendre la 4 voies de Charleville,
Rotel,
sortir à Poitéron, si je dis
on
pas de sort
sottise. À Poitéron.
À Poitéron, il y a un rond-point, puis une grosse épingle à cheveux, et on va vers le Chêne, et avant le Chêne, Quand on est en voiture, avant le chêne, on peut descendre et passer sur la digue. Les bus ont des consignes particulières parce que les bus ne peuvent pas prendre la digue, donc ils feront un tour, mais ça, les chauffeurs sont au courant.
Donc, la 34, on passe bien sûr au Rotel, on va jusqu'à Poitéron, on tourne à Poitéron, on monte la petite épingle à cheveux.
Exactement.
Et on prend la direction du chêne.
Exactement.
Et là, on va vivre une journée.
Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez venir en voiture. Il y a beaucoup d'espace de parking. Et puis, comme on démarre de bonne heure, puisque l'accueil est prévu à partir de 9h, il y aura largement de quoi garer votre voiture, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire pour le bus, à venir en voiture, il y a largement la place.
Et ça se termine évidemment par une célébration.
Exactement, donc à 15h30, il y a la messe d'envoi, de sorte que tout le monde puisse remonter dans son bus vers 17h, 17h30, voilà, pour qu'on rentre chez soi à une heure raisonnable.
On espère bien sûr, et ça, on n'y peut rien, une belle météo, mais il fait toujours beau dans les Ardennes. Hein.
C'est comme en Bretagne. Déjà, de toute façon, il fait
beau plusieurs fois par jour.
Non, en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour dans les Ardennes, il fait toujours beau.
Ah,
attendez,
alors ça, c'est formidable. Vous êtes un Ardennais d'adoption.
Exactement. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, je crois que la météo va être parfaite. parce que il va pas faire trop chaud, mais il va faire sec. Donc, je pense que c'est vraiment la journée idéale pour venir pèleriner. C'est pas la journée idéale pour aller bronzer sur la plage du lac de Béron. Ça, écoutez, tant mieux, il y aura peut-être moins de touristes. Mais pour les pèlerins, c'est la journée parfaite.
Merci Olivier Delalle d'avoir été avec nous. Vous êtes, rappelons-le, économe diocésain et organisateur de ce pèlerinage.
Co-organisateur.
Qui a lieu, co-organisateur. Ce sera le lundi de Pentecôte au lac de Béron. Très bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir.
À Reims.
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Il y a le lac de Béron, mais aussi à Neuvisy, pendant tout le mois de mai, un certain nombre de rendez-vous autour de Marie. Pour nous en parler, Jacques Houdard, diacre dans le diocèse. Jacques Houdard, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que quand on parle de vous, on parle souvent bien sûr de Neuvisy, car c'est vrai que le pèlerinage à Neuvisy au mois de mai, c'est quelque chose qui compte. Alors je sais qu'on est à la mi-mai, mais tout de même, on peut y revenir.
Oui, alors bien sûr, le pèlerinage à Neuvisy, Neuvisy étant le sanctuaire marial diocésain, le mois de mai étant le mois de Marie, c'est un mois important pour Neuvisy et pour ce qui se passe au sanctuaire. C'est vrai aussi que depuis plusieurs années, en fait, nous travaillons les différents sanctuaires ensemble, hein, que ce soit Saint-Antoine, que ce soit Sarmi, que ce soit Saint-Valfroy et Neuvisy. Et pour cette année, nous avons un thème commun, enfin un cheminement commun, qui est tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens, pauvre avec le Christ, riche des autres, avec chaque sanctuaire, sa spécificité, où nous, sur Neuvisy, avec Marie, c'est pauvre avec le Christ, mais riche des autres, comme Marie, hein, à l'image de l'humilité de Marie.
Alors, on se souvient du rendez-vous qui avait eu lieu le 1er mai, dans le cadre aussi du pèlerinage des vocations. Il y avait le pèlerinage de Neuvisy, nous étions sur place. Mais il y a encore certainement, Jacques Houdard, d'autres propositions pour le mois de mai qui arrive à Neuvisy.
Alors il y a deux types de propositions. Il y a des propositions durant tout le mois de mai, tous les dimanches et fêtes du mois de mai, où des groupes, des écoles, des paroisses, des particuliers, individuellement, enfin voilà, tout le monde est invité avec un cheminement particulier, dans le sens où il y a la messe à 10h30, la proposition d'un repas partagé et une procession au bois sur le chemin marial à 14h. Et ça, tous les dimanches du mois de mai.
Ça, c'est un grand rendez-vous. On peut venir des Ardennes, de Reims, le dimanche 10h30, il y a la messe et il y a au bois le pèlerinage, au bois, la marche au bois à 14h.
À 14h, oui, voilà. Et ça, tous les diocésains sont invités, et même au-delà.
Alors ça, c'est une des propositions. Il y a aussi peut-être des espaces missionnaires qui viennent ou des gens qui profitent de ce mois de mai pour se rendre au sanctuaire.
Oui, oui. Je vous dis, hein, il y a des groupes où voilà, soit des espaces missionnaires, soit des paroisses. Mais il y a beaucoup de particuliers aussi, hein, qui viennent individuellement, quoi, qui viennent en famille, qui viennent et au-delà de ce mois de mai, de ces propositions, tout au long de l'année, il y a des propositions un petit peu plus de réflexion un petit peu plus profonde, avec un samedi par mois, un samedi avec Marie, de réfléchir sur Marie dans les évangiles de Matthieu, Marie
dans les évangiles de Luc. Il y a un calendrier qui est disponible pour connaître les dates exactement?
Il y a un calendrier qui est disponible, enfin... En fait, il y a un calendrier qui était fait jusqu'au mois de mai, là.
Oui,
et il y en a un autre qui va être refait.
C'est plutôt pour l'an prochain. Vous nous mettez déjà en alerte. On aura le temps de se retourner.
Voilà. En sachant que pour cette année, par exemple, il y a un vendredi par mois où c'est une conversation spirituelle, c'est-à-dire qu'on échange par rapport à un thème. Et par exemple, le vendredi 24 mai, il y a une conversation avec Benoît XVI, voilà, sur les écrits de Benoît XVI. Une conversation spirituelle, c'est un
échange. Et c'est à quelle heure, Jacques Houdard?
Alors, c'est à 20h à Neuvisy.
À 20h à Neuvisy, le 24 mai. Merci en tout cas, Jacques Houdard, diacre dans le diocèse de Reims et des Ardennes, d'avoir été avec nous. À très très bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci, Au revoir.
À très bientôt. D'ailleurs, on retrouvera Jacques Oudart tout prochainement au cours du mois de mai. C'est l'occasion pour nous de nous quitter. Les spécialistes du foot, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette édition, suivront bien sûr le match du Ligue 1 Reims-Marseille au stade Auguste Delaune. Quant à nous, on vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de RCF. Et si vous le voulez bien, on se donne rendez-vous demain pour ouvrir avec vous une nouvelle page du 18-19 régional. À bientôt.